Il est 7h20. Alors, qu'est-ce qui retient notre attention, tant sur le plan international que chez nous, pour faire la revue de presse de ce 20 mai? Maxime Laniel, bonjour.
Salut.
Alors, Maxime, d'abord, on va débuter au Québec. Vraiment, ça a été une fin de semaine assez lourde en découvertes macabres et en faits divers. Et à Macamic, en Abitibi, on a découvert le corps de cette petite fille de 4 ans,
ouais,
là, qui était recherchée.
Oui, ça faisait 2 semaines là, qu'elle était tombée dans un ruisseau. Elle a enfin été retrouvée. La Sûreté du Québec a confirmé, donc, hier soir, là, en fin de soirée, que son corps a été retrouvé en après-midi. C'est des bénévoles essentiellement là, qui étaient à la recherche de la fillette disparue le 4 mai dernier, qui, elle jouait d'ailleurs avec d'autres enfants sur le terrain familial, n'avait pas été aperçue depuis, et le corps a été découvert dans le secteur du 2e et 3e rang ouest. Alors, l'enquête va pouvoir se poursuivre.
C'est vraiment terrible. J'avais une discussion il y a quelques jours, Maxime, avec une amie dont le garçon vient de s'acheter un motocross.
Okay.
Puis elle me disait à quel point ça lui faisait peur que son fils fasse
cœur,
et un accident.
Ouais.
Et là, ce matin, je lis qu'il y a un jeune de 15 ans là, qui est aux soins intensifs. Là, un accident, c'est une collision frontale, c'est ça?
Je me pose toujours la question, tu sais, à 15 ans, est-ce qu'on a le droit de conduire ce type
d'appareil? On n'est pas sur la route.
On n'est pas sur la
route. C'est ça qui arrive, c'est qu'on est
dans le bois. On n'est pas régi par le code de la sécurité routière.
Tu sais, effectivement, alors oui, puis c'est des grosses machines.
C'est ça. Puis moi, vois-tu, mon frère, quand il était petit, là, il y avait de ses jeunes amis, là, il y avait à l'époque peut-être 8 ou 9 ans, puis il y avait des jeunes qui pilotait ça carrément, là, des petits motocross là, avec des petits moteurs, puis ça s'énervait, puis je te dirais que ça peut aller jusqu'à 100 km/h, ça. Puis quand t'es jeune, puis que t'as pas la faculté de comprendre que ça peut être dangereux, qu'il y a des répercussions quand on va trop vite, à un moment donné, ça peut être dangereux.
Non, puis à l'adolescence, il y a vraiment quelque chose dans les hormones, tant chez les garçons
le goût de pousser
chez les filles,
le truc, hein?
La peur n'est pas quelque chose de concret.
Exact.
Alors, on se pousse,
on va
mutuellement plus loin.
Dans le chum,
alors,
dans le cas qui nous concerne,
c'est une collision frontale entre deux motocross.
Exact, oui. Ouais. Bon, là, en ce moment, ce qu'on sait, c'est que le jeune adolescent de 15 ans repose à l'unité des soins intensifs. Depuis hier soir, il a été impliqué donc, dans une collision frontale. C'était un autre motocross qui était conduit par un homme de 41 ans qui est entré en collision avec celui du jeune homme de 15 ans. Ça s'est passé du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'accident qui s'est produit en après-midi, le début d'après-midi, 13h15. Et c'est produit dans le secteur du lac Kenogami, selon la police du Saguenay. L'homme de 41 ans a subi aussi des blessures graves, mais moins sérieuses que celles de l'adolescent. Il y a une enquête qui est en cours pour tenter de déterminer les causes exactes de cet accident-là.
Bon, là, on parle de François Legault, qui est à New York actuellement,
oui,
entre autres pour vendre notre électricité. Mais il a réagi aussi à cette nouvelle qui est sortie cette semaine, là, concernant le fameux fonds vert là, qui est géré comme n'importe comment actuellement.
Bien, on n'atteint pas les objectifs. Hein. On apprenait ce week-end, là, on en apprenait davantage d'abord sur les 100 entreprises qui polluent le plus au Québec.
On en a parlé avec Patrick Bonnet de Greenpeace hier matin.
Exactement, on en a parlé avec lui qui mentionnait qu'on n'en fait carrément pas assez. Bien, force est de l'admettre, hein, parce que depuis, on s'était fixé l'objectif de réduire de 20% là, les réductions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2020. On est à peine rendu en 2019, là, on est à peine rendu à même pas 10% de réduction. Et dans certains cas, il y a des usines qui polluent de plus en plus. Et ça c'est vraiment venu interpeller le premier ministre François Legault, qui a mentionné hier là, que le modèle sera à revoir carrément.
On
c'est un échec, il l'a mentionné. Le modèle actuel, c'est un échec. Et va devoir repenser le modèle qui devrait être basé sur la concurrence, selon lui. Il a indiqué que les industries, les PME, les villes, les minières, la concurrence en général, il veut que ça se fasse concurrence pour offrir des fonds aux plus offrants. Bon, il a annoncé 190 millions au total sur 5 ans pour aider les plus grands pollueurs à atteindre leurs objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. Il n'exclut pas, ça c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il n'exclut pas d'ajouter des fonds nécessaires si véritablement demande il y a.
Bon, alors si ça arrive vraiment, tout ça, ça donnera un sens à la marche des étudiants qui a eu lieu vendredi dernier, où on demandait justement une action, entre autres de la part du gouvernement du Québec. Là.
Sais-tu, je pense que ça va être un enjeu de plus en plus mis de l'avant-scène, là, l'enjeu de tout ce qui est vert, de l'environnement, parce que là, on se rend compte tranquillement, pas vite, surtout avec la nouvelle génération, là, on est peut-être un peu plus au fait de toutes les répercussions que ça va avoir dans un avenir
tout
proche.
Fait, hein. Ouais.
On voit juste la fonte des glaces, on commence à faire des corrélations, on associe certains phénomènes qui arrivent, juste les inondations de ce printemps. On n'avait jamais vu ça. On entend souvent parler dans les médias, là, on dit c'est des phénomènes qui arrivent une fois au 1000 ans. Et là, pourtant, la dernière fois, c'était en 2017.
En 2017.
Ça se reproduit encore une fois en 2019.
Mais il y a encore des gens qui prétendent que c'est relié au hasard.
Oui, et tu as des gens qui croient que la Terre est plate aussi.
Hein, oui, ça, c'est, exactement.
Il faut toujours se fier à une catégorie de gens qui ont quand même un certain niveau de conscience là, de ce qui se passe sur la planète. Là. Je pense que ça va être un enjeu néanmoins au niveau des gouvernements. Là. Ça va devoir placer ça dans les plateformes politiques. Là.
Effectivement. Ouais. Sur le plan international, on est loin d'une diminution des tensions entre la Chine et les États-Unis. Et là, Google vient d'ajouter une couche de...
Carrément. Là, le géant américain de l'informatique Google a commencé à suspendre ses relations avec le chinois Huawei, qui fait partie des entreprises jugées à risque là, par Washington. C'est un peu la pression de Washington sur les entreprises privées qui dit, regardez, on est en guerre commerciale. Il faut s'afficher clairement dans ce secteur-là. Alors, le géant chinois des télécommunications là, figure dans cette liste d'entreprises suspectes là, auprès desquelles on ne peut plus commencer à commercer seulement après avoir obtenu un feu vert des autorités américaines. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas le feu vert, autrement dit, on commerce plus. Alors, on ferme les portes et les téléphones de Huawei qui, en ce moment, sont sur la plateforme Android, qui est une plateforme qui est développée par Google. C'est le système d'exploitation du téléphone. Ne pourront plus intégrer ça à leur appareil. Alors ça élimine les services comme Gmail, les services comme YouTube. Alors ils vont devoir peut-être eux-mêmes faire leur propre programmation de leur système d'exploitation.
Là. Est-ce que Google a annoncé ça il y a quelques heures seulement?
Exact.
Est-ce qu'on a les réactions de la Chine? Pas encore?
Pas encore, mais ce qu'on sait, c'est le siège social est à Shenzhen. Tardera pas là, à avoir des répercussions, ça c'est certain. Depuis longtemps quand même, il faut le dire, l'entreprise est dans le collimateur là, des autorités américaines, d'espionnage à plusieurs reprises, espionnage industriel au profit de Pékin. Rappelons que sa vice-présidente là, du conseil d'administration et directrice financière de la société Huawei, Meg Wanzhou, avait été arrêtée là, le 1er décembre 2018 par le Canada. Et on s'était retrouvé avec la patate chaude, nous, là, parce que les États-Unis demandaient son extradition pour pouvoir l'inculper, la juger. Elle a reçu d'ailleurs 4 accusations criminelles à son endroit. Fraude bancaire, fraude électronique, complot en vue de commettre à la fois une fraude bancaire et une fraude électronique. Alors, visiblement, cette dame-là, pour l'instant, elle a été libérée sous promesse de comparaître, mais ça n'exclut pas le fait qu'elle pourrait retourner aux États-Unis, vivre une extradition, finalement, pour y être jugée. Donc, c'est pas la première fois là, qu'on a des tractations entre pas le Canada, mais plutôt les États-Unis et la Chine. Et ça n'a pas l'air d'être terminé là, dans ce dossier-là.
Non, on en rajoute une couche, effectivement.
On est au début.
Et puis, de retour chez nous, dans quelques semaines, on va inaugurer le pont Champlain.
Oui.
Puis, on apprend à la une de la Presse Plus ce matin qu'il y a eu pas mal de chicanes.
Ça a été incroyable. Ouais. C'est tout un projet. Quand on se met à regarder ça, nous autres, les contribuables en général, là, on voit ça puis on se dit, on a tendance à critiquer. Là, on va mettre un péage. Puis là, c'est un PPP.
Ça a été plus long que prévu.
Puis souvent, on a tendance à critiquer. Puis quand on lit l'article dans la presse ce matin, on se rend compte à quel point, ce qu'on voit, en fait, c'est une infime partie de tout ce qui est fait. C'est quasiment la minime pointe de l'iceberg parce qu'en deçà de tout ça, il y a tellement de travail qui a été fait. D'ailleurs, on a décidé de s'exprimer. L'ancien ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités au sein du gouvernement conservateur de Stephen Harper, M. Denis Lebel et son chef de cabinet de l'époque, M. Yann Plante, ont levé le voile carrément sur les tensions puis tout ce qui s'est passé entourant la naissance de ce projet-là.
Ça n'a pas été facile.
Écoutez, on remet dans le contexte. Au départ, on est en période d'austérité. On est en 2008. Imaginez-vous, on est à la crise des subprimes. Et puis là, on arrive puis on se rend compte que le pont Champlain, tel qu'il est, ne pourra pas perdurer dans le temps. On s'imaginait peut-être qu'avec des travaux de réfection majeurs, on allait arriver à faire prolonger ça dans le temps pour plusieurs années encore. Mais là, on se rend compte, après des inspections, que là, ça ne marchera pas.
C'est urgent. Là.
C'est urgent, puis c'est quasiment une mesure de sécurité qu'on doit prendre. Mais là, il faut se mettre dans le contexte qu'on essaie de serrer la vis là, du côté du gouvernement conservateur de Stephen Harper. On veut le plus possible garder notre argent. Et un projet de 4 milliards de dollars, ça ne nous intéresse pas. On peut le comprendre. Et là, Denis Lebel voit les pressions populaires, voit Denis Coderre qui dit, il faut presser le pas parce que ça n'a plus de sens, il ne faut pas attendre que le pont tombe. Et puis d'un autre côté, tu as les mesures d'austérité qui sont instaurées et lui se retrouve entre l'arbre et l'écorce et doit trancher, doit prendre une décision. Et là, M. Lebel explique dans son texte Comme quoi que, bon, pour mettre de l'avant son projet, il a dit, on n'approuve pas du jour au lendemain un projet de 4 milliards de dollars, comme si c'était fait. Il ne peut pas mettre lui-même son sceau. Il faut avoir l'approbation des ministres autour de lui. Donc, pour convaincre les ministres autour de lui, son entourage, sa garde rapprochée, ben, avance certains projets. Dit, bon, on va y aller d'un partenariat public-privé, ce qui a été quand même à la mode un certain temps.
Il y avait un projet une semaine, puis la semaine suivante, le projet changeait.
Exactement.
Puis, vraiment.
Puis on a instauré le mode péage, parce qu'on veut essayer de faire passer la pilule au ministre. On dit, ben écoutez, si vous voulez, on va financer, mais d'un autre côté, on va avoir des retours d'argent un coup que le pont va être construit. Et puis là, ben tranquillement, pas vite, on se rend compte qu'on est capable d'amener cette idée-là dans l'esprit des ministres. Et puis là, on en arrive au point où on se dit, bon, on se lance. Là, Denis Lebel constate que, bon, en ce moment, le projet aurait pu être géré par les ponts Jacques-Cartier et Champlain, là, la Société des ponts. Ouais. Mais là, on se rend compte que là, ben il y a plusieurs paliers au-dessus de tout ça, parce que la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporé relève ni plus ni moins là, de la Société des ponts fédéraux qui elle-même est chapeautée par le ministère des Transports. Là, lui voit toute la grosse machine. À un moment donné, c'est tellement gros que lui-même décide de prendre le projet sous sa houlette. Et là, il y a plusieurs personnes qui s'élèvent, vont dire bon, on devrait aller dans des appels d'offres pour faire le plus beau pont. Et puis là, évidemment, ben, il y a plusieurs personnes qui se posent la question hein, quel va être le nom du pont.
C'est ça, j'allais dire, il y a tellement de dossiers.
Du nom autour
tout,
du dossier, s'est passé tellement de chose que M. Lebel a eu à gérer. Finalement, il l'a fait de main de maître parce que, comme vous le savez, on va inaugurer bientôt le pont.
Et le résultat est franchement impressionnant.
On n'aura pas de péage.
Non,
c'est ça qui est plus incroyable, c'est qu'on n'aura pas de péage en bout de ligne parce que Justin Trudeau a fait lever cette clause-là.
Merci beaucoup, Maxime.
C'est un plaisir.
Merci. Il est 7h31, au retour des sports, entre autres, et la circulation.